Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h58, excellent réveil à tous. Très très heureuse de vous retrouver en ce lundi matin. On est ensemble jusqu'à 9h, lundi 16 février 2026. Écoutez bien ces mots. L'ultra-gauche était à la manœuvre de ce lynchage. Les mots sont exprimés par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, après la mort de Quentin. Quentin, ce jeune militant nationaliste, 23 ans, décédé ce week-end à Lyon. LFI et le groupe antifasciste La Jeune Garde sont pointés du doigt. Qui sont ces groupuscules? Le spécialiste des radicalisations politiques, Jean-Yves Camus, sera en direct dans 10 minutes. Et puis j'attends évidemment vos réactions et vos témoignages. Le gouvernement a-t-il tardé pour dissoudre ce groupuscule, La Jeune Garde? Et en même temps, ce groupuscule, il a été fondé par un homme qui aujourd'hui est député, élu de la République. Alors, est-ce que l'État a failli face à ces dérives violentes? La question de la violence, d'ailleurs, aujourd'hui en politique, je poserai la question à la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, à 8h30, mais je vous la pose aussi à vous. Est-ce que vous craignez des débordements et une montée de la violence? Je vous attends pour réagir au 32-16. Et puis, la France est sous l'eau. La Gironde et le Lot-et-Garonne, vigilance rouge encore pour des crues, des habitants évacués. L'Ouest et le Sud-Ouest, touchés par la montée des eaux. Est-ce que vous faites partie de ces sinistrés? Vous surveillez les cours d'eau autour de chez vous, de très près. Venez donc vous aussi témoigner. 32-16, bien sûr, ou le WhatsApp d'RMC, 0612 424. Tous les records sont battus. L'hydrologue Emma Aziza sera d'ailleurs avec nous à 7h40 pour qu'on essaie de mieux comprendre cette France sous l'eau. Dans un instant, le journal de 7h. Mais tout de suite, la météo. Anthony Kaczmarek, triple vigilance, donc je le disais aujourd'hui, pour forte crue, pluie et avalanche.
Exactement, 23 départements au total en vigilance, 21 en orange, 2 donc en rouge dans le sud-ouest pour les crues. On surveille surtout dans les Pyrénées les fortes pluies en plaine. La neige va fondre en dessous de 2000 mètres avec donc ce fort risque d'avalanche. Risque d'avalanche marqué aussi dans les 3 départements des Alpes du Nord. Le temps sera encore pluvieux aujourd'hui du sud-ouest au Massif central et à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Beaucoup de neige jusqu'à 50-60 cm à haute altitude en montagne et puis ailleurs un temps changeant. Des nuages, quelques éclaircies et de fréquentes averses, parfois orageuses, au nord de la Seine, avec du vent. Mais les températures remontent, ça y est, c'est le redoux, avec cet après-midi entre 7 et 12 degrés sur la moitié nord et 12 à 18 sur la moitié sud.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Bon réveil à tous, il est 7h, passé de 1 minute et c'est l'heure du journal.
RMC, Apolline Matin.
RMC, le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'ultra-gauche ciblée par Laurent Nunez à la manœuvre, selon le ministre de l'Intérieur, après la mort d'un militant nationaliste lynché la semaine dernière à Lyon. Nous serons sur place dans ce journal alors que le parquet doit faire un point sur l'enquête cet après-midi. Encore un réveil, les pieds dans l'eau ce matin au bord de la Garonne pour des centaines d'habitants qui redoutent le retour des précipitations cette semaine. Et le 15 de France, bien parti pour le Grand Chelem après sa victoire écrasante hier face au Pays de Galles, 54 à 12.
Les questions nombreuses ce matin après la mort de Quentin à Lyon.
Tabassé à mort jeudi en marge d'une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan, l'étudiant d'extrême droite âgé de 23 ans, a succombé à ses blessures samedi à Lyon ce matin en direct pour RMC. Julie Bro du service police-justice RMC, vous suivez cette enquête qui progresse. Un point sera fait dans l'après-midi par le parquet de Lyon et selon le ministre de l'Intérieur, Julie, l'ultra-gauche est manifestement à la manœuvre. C'est ce qu'a dit Laurent Nunez sur France 2 hier soir.
Le ministre de l'Intérieur a notamment pointé du doigt la possible implication de la Jeune Garde, un groupe antifasciste dissous en juin 2025 et qui a été mis en cause par le collectif Némésis, lui proche de l'extrême droite. Alors à ce stade, un tel lien n'a pas été établi par le parquet de Lyon et qui a en revanche assuré avoir recueilli, je cite, des témoignages significatifs pour permettre l'identification des agresseurs de Quentin. En parallèle, l'analyse de la téléphonie, mais surtout celle de plusieurs vidéos amateurs et des caméras de vidéosurveillance ont permis aux enquêteurs de comprendre l'enchaînement des faits. Et sur les images, on aperçoit 3 jeunes identitaires, dont Quentin, se faire passer à tabac par une quinzaine d'individus cagoulés et pour certains munis de barres de fer. Des jeunes qui doivent encore être tous formellement identifiés et localisés. Leur interpellation prochaine, selon Laurent Nunez, permettra alors de confirmer ou d'infirmer leur appartenance à une mouvance d'extrême gauche.
Julie Brault, envoyée spéciale à Lyon pour RMC, l'affaire prend donc une tournure politique avec dans le viseur la France insoumise, ciblée de toutes parts et contraint Sonia Gobry de se défendre.
À l'unisson, les insoumis ont rapidement condamné la mort du jeune Quentin, mais c'est loin d'être suffisant pour éteindre les critiques. Leurs adversaires les accusent de brutaliser les débats et donc de créer un terreau fertile à ce déchaînement de violence. En meeting hier, Jean-Luc Mélenchon s'est défendu.
J'ai dit des dizaines de fois que nous étions hostiles et opposés à la violence.
Une partie de la classe politique maintient et cible Raphaël Arnaud, député insoumis et cofondateur de la Jeune Garde. L'enquête devra le déterminer, mais des témoins affirment avoir reconnu plusieurs membres du groupuscule antifasciste lors du drame. Jean-Luc Mélenchon, lui, réfute toute responsabilité de LFI.
Nous n'avons rien à voir avec cette histoire. Et ceux qui nous accusent sont des calomniateurs. Et où était passée la police, s'il vous plaît ?
Sur la défensive aussi, Manuel Bompard accuse sur LCI la droite et l'extrême droite de souffler sur les braises.
Vous avez aujourd'hui une partie du spectre politique sur la base d'accusations mensongères visant à impliquer la France insoumise dans ce drame qui cherche à faire dégénérer la situation et à transformer le débat politique de notre pays dans une forme de guerre civile.
Il en veut pour preuve la dizaine de locaux LFI vandalisés ce week-end.
Sonia Gobry, service politique RMC, notait qu'hier plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées à Paris devant l'université de la Sorbonne en hommage aux militants nationalistes.
Et essayer de comprendre justement cette question de la radicalisation et de la violence ultra-droite, ultra-gauche. Le politologue Jean-Yves Camus, co-observateur des radicalités politiques pour la Fondation Jean Jaurès, est avec nous juste après votre journal, Thibault, pour essayer de mieux comprendre.
Il est 7h04, vous écoutez RMC. La vigilance rouge au cru maintenue ce matin en Gironde et dans le Lot-et-Garonne. Cela devrait se poursuivre jusqu'à au moins demain. Après le passage de la tempête Niels, la calmie de ce week-end n'aura été que de courte durée. Les précipitations vont reprendre sur ces deux départements, ainsi que sur une bonne partie de l'Ouest. Une vingtaine d'autres départements de la Bretagne à la Méditerranée restent en vigilance orange, puis redoutés par les habitants vivant à proximité de la Garonne. Le fleuve est déjà sorti de son lit, alors faut-il rester ou partir ? Luc Allobert est allé à la rencontre de sinistrés à la Réole, qui est en Gironde.
Faute de bottes, Rabat a attaché des sacs poubelles autour de ses chaussures pour se protéger des 10 cm d'eau dans sa maison. Il préfère relativiser.
On a l'électrique, on a le gaz, on a le chauffage, on a tout, c'est ça l'essentiel.
Il prend même le temps d'aider le voisinage.
Ouais, j'ai cuisiné pour le quartier, pour le voisin. Franchement, on est bien.
Rabat dort à l'étage, à l'abri de l'eau, et pour lui, pas question d'évacuer.
Ouais, attaché à la maison, attaché à les voisins. Si vraiment il y a pire que ça, on va partir. Mais pour le moment, on est là.
Rester chez soi malgré la montée de l'eau, c'était aussi le plan de Mathurin.
On s'était organisé pour se préparer à manger tant qu'il n'y avait pas l'eau qui était dedans, se préparer une glacière. On a pique-niqué à l'étage.
Mais après la rupture d'une digue, l'eau est montée bien plus vite et plus haut que prévu, presque un mètre au rez-de-chaussée. Alors il a appelé les pompiers pour évacuer.
Ah ben là, par la fenêtre, le bateau, il s'est mis contre, ils ont mis une échelle et je suis descendu en suivant, ils ont fait passer les bagages et voilà.
Il attend maintenant que l'eau se retire pour constater les dégâts, mais ses espoirs sont minces.
Ça va durer plus de 2-3 jours avant qu'elle descende, si elle ne remonte pas entre temps.
Car les fortes pluies, elles, se poursuivent, la crue pourrait même repartir dès demain, alerte le préfet de Gironde.
Et notez que 45 000 foyers restaient toujours privés d'électricité hier soir, selon Enedis. Retour à la case départ pour le texte sur la fin de vie examiné en seconde lecture à l'Assemblée nationale après son rejet au Sénat la semaine dernière. C'est le texte voté par les députés en mai 2025 qui sera débattu ce soir. Et puis tenter de renouer le dialogue, objectif d'un déplacement de 2 jours pour Laurent Nunez en Algérie, OQTF, collaboration sécuritaire, terrorisme ou encore la situation du journaliste français Christophe Glaise emprisonné en Algérie. Plusieurs sujets seront donc sur la table du ministre de l'Intérieur en Algérie.
RMC 7h07, le 15 de France, seul leader du tournoi des Six Nations ce matin.
Les Bleus impressionnent avec 13 essais marqués depuis le début du tournoi, 8 hier face au Pays de Galles, victoire 54-12. Les hommes de Fabien Galthié enchaînent un deuxième succès dans le tournoi, seule équipe invaincue, poursuivent leur opération Grand Chelem. Quoique, mieux vaut rester prudent dans les rangs tricolores. Wilfried Tampillon tente de calmer le jeu.
Oui, quand on parle de voie royale vers le Grand Chelem au sélectionneur Fabien Galthié, sa réponse est tout autre.
On peut pas empêcher d'en parler. Je crois que nous, la voie, là, c'est on rentre à Marcoussis et on se prépare à Marcoussis. Et après, on ira à Lille. On nous attend un rendez-vous solide face à l'Italie. Voilà, c'est notre long terme.
Les Français ont fait naître un espoir, ils le savent. Ils sont ambitieux, mais aussi prudents, comme le capitaine Antoine Dupont.
Je pense que c'est ce pourquoi on se prépare depuis le début du tournoi, pour essayer de gagner tous les matchs. Pour le moment, on est arrivé à gagner les deux premiers. Vous allez faire votre boulot, nous, on va faire le nôtre. Je pense qu'on a cette expérience sens-là aujourd'hui, de se dire que jusqu'à la dernière journée, le tournoi ne sera pas gagné. Aujourd'hui, on est en bonne position, oui, mais il nous reste 3 gros matchs. On voit l'intensité des matchs chaque week-end, donc c'est très dur de gagner tous les week-ends.
Et le message des cadres est passé chez des jeunes comme le centre Fabien Broboiry. Écoutez plutôt.
On va prendre match après match. Je pense qu'on ne va pas passer directement à la fin. C'est important de se concentrer semaine après semaine sur les équipes qui nous attendent, de ne pas en vue l'Italie et de faire de gros matchs.
Tout le monde pense donc à ce prochain match face à l'Italie. Ceux qui veulent s'enflammer devront attendre la toute fin du tournoi.
À retenir également la victoire de Toulouse, 13-9 hier soir sur la pelouse du Stade français en clôture de la 17e journée de Top 14. Et puis dernière épreuve de ski alpin aujourd'hui au jeu de Milan Cortina.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan Cortina.
Clément Noël remet donc son titre olympique en jeu sur le slalom première manche à 10h ce matin. On espère qu'il viendra exploser le record de médailles pour les Bleus aux Jeux d'hiver. Égal hier avec les 13, 14 et 15e médailles. C'est aussi bien que Sochi en 2014 et Pyeongchang en 2018 grâce notamment à la médaille de bronze en snowboard cross par équipe mixte. Accompagné par Léa Casta, Loan Bozzolo était fier à l'arrivée.
C'est magnifique ce qui se passe et on est hyper fier de ramener ça à la France. On a tous les deux notre médaille en bronze. C'est super lourd. C'est impressionnant tout ce qui s'est passé pendant ces Jeux Olympiques. On a réussi à sortir notre botte magique pour la finale et c'est magnifique. Les Jeux Olympiques, c'est fou. On la gardera toute notre vie, cette médaille. On s'en rappellera.
Et puis un mot de foot avec Lyon qui consolide sa 3e place, vainqueur de Nice hier soir, 2-0 en clôture de la 22e journée de Ligue 1.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h09 sur RMC. Écoutez, c'était hier soir sur France 2.
Ce qu'on voit aux images, c'est effectivement un lynchage. Quand vous portez des coups à un homme à terre, à plusieurs, vous ne pouvez pas ignorer que vous pouvez donner la mort en plus. Mais manifestement, c'est l'ultra-gauche qui était à la manœuvre, manifestement.
Manifestement, l'ultra-gauche était à la manœuvre de ce lynchage. Voilà ce que dit le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Il réagissait au meurtre de Quentin, ce militant d'extrême droite à Lyon qui a été tabassé à mort par un groupe qui se dit antifasciste, selon les premiers éléments de l'enquête. Jean-Yves Camus est en direct avec nous. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste des radicalités. La violence en politique est-elle à son maximum? On y revient avec vous dans un instant. Vous nous expliquez tout sur cette ultra-gauche, la jeune garde. Qui était-il? De qui s'agit-il? Combien de personnes? Et est-ce que vous craignez qu'il y ait d'autres affrontements? Cette question, je vous la pose aussi à vous qui nous écoutez. Appelez-nous au 3216. Est-ce que vous craignez que ça dégénère? Vos témoignages au 3216 ou sur le WhatsApp 0612 424 424. Il est 7h10, on se retrouve dans un instant.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC et sur la télé RMC Story, canal 23. L'ultra-gauche pointée du doigt après le meurtre de Quentin, cet étudiant de 23 ans qui a été lynché à mort à Lyon. Le groupe dit antifasciste, la jeune garde, est notamment dans le viseur des autorités. Jean-Yves Camus est en direct avec nous. Bonjour. Politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités, vous étudiez l'ultra-droite et l'ultra-gauche depuis des dizaines d'années et j'aimerais comprendre avec vous de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'abord de comprendre si pour vous la violence en politique est au moment où l'on se parle à son paroxysme?
C'est une violence réelle, bien réelle, en augmentation par le nombre des affrontements qui existent, avec à la fois des faits divers qui heureusement n'impliquent pas mort d'homme, ni même le plus souvent de blessures graves et qui impliquent à la fois des groupes catalogués par les services de renseignement à l'ultra-droite et puis des mouvements d'extrême-gauche ou des mouvements dits antifa pour antifascistes sont dans une sorte de guerre pour la maîtrise de la rue, notamment à chaque fois que se produit un événement comme la conférence de Rima Hassan, de l'Institut politique de Lyon. Ce sont des déclencheurs possibles d'affrontements en marge de l'événement. Maintenant, cette violence, quand on la compare à celle qu'ont connue un certain nombre de pays étrangers, on fait souvent référence à l'Italie, par exemple, des années 70-80, aux fameuses années de plomb, on n'en est naturellement pas là. D'abord parce que les années de plomb italiennes se déroulaient sur fond de ce qu'on appelait la stratégie de la tension qui impliquait des acteurs même de l'État dans une sorte de jonction entre certains secteurs des services de renseignement et de l'ultra-droite. On n'en est évidemment absolument pas là.
Mais pour essayer de comprendre le lien, justement, pour la première fois, il y a une question qui est une question de lien avec un parti politique qui est aujourd'hui tout à fait représenté dans les institutions, en la figure de Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, député La France Insoumise du Vaucluse, mais qui est également l'un des cofondateurs de ce groupuscule qui s'appelle donc la Jeune Garde, et dont, d'après nos confrères de Mediapart, l'assistant parlementaire aurait été présent dans le groupe qui, de près ou de loin, a participé activement ou pas au lynchage à mort de ce jeune. Cette question-là, qui fait qu'il y a un lien, effectivement, entre ce groupuscule et le parti politique LFI, est-ce que ça, c'est nouveau ?
Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que lors de la mort de Clément Méric en 2013, donc Clément Méric, ce militant antifasciste qui avait été... qui était mort des suites de coups donnés par des skinheads d'ultra-droite. Là, l'implication est celle de groupuscules qui sont d'ailleurs immédiatement dissous. À partir du moment où, et je suis très prudent parce que nous aurons cet après-midi une conférence de presse du procureur de Lyon qui fera, je l'espère, un point précis sur cette affaire. À partir du moment où il est imputé à une personne ayant des fonctions auprès d'un parlementaire, on change totalement le registre. Je dis à une personne parce que d'abord la responsabilité elle est individuelle en droit.
Bien sûr.
C'est-à-dire que c'est l'individu dont il faudra voir s'il a participé physiquement à l'affrontement. Mais naturellement, si sa responsabilité est confirmée, ça ne manquera pas de rejaillir sur le parti politique auquel il appartient et pour lequel il travaille. Il faut signaler aussi qu'il y a quand même une procédure de dissolution de la Jeune Garde qui a été prononcée par un décret en Conseil des ministres du 12 juin 2025, et c'était Bruno Retailleau qui l'avait voulu. Cette procédure de dissolution, le groupe l'a contestée. Il se trouve qu'elle devait être examinée par le Conseil d'État cette semaine. C'est évidemment sans lien avec ce qui s'est passé à Lyon.
C'est le hasard du calendrier, mais
ça veut dire quand même que le sort de ce groupe est de toute manière en suspens, puisque si le Conseil d'État confirme sa dissolution, eh bien, il sera obligé de se plier.
Restez avec nous, Jean-Yves Camus. Je voudrais qu'on accueille le témoignage et la réaction de Karim qui nous appelle du Vaucluse. Bonjour Karim.
Bonjour à Pauline, bonjour Karim, monsieur.
Karim, je pose la question depuis ce matin, au fond, de savoir si vous faites partie de ceux qui craignent que ça dégénère, que la situation dégénère.
Et oui, Pauline, déjà, c'est inadmissible. Février 2026, on perd un de nos enfants, 23 ans. Tout ça pour le débat politique. Trop d'agressivité, manque de respect, pas de tolérance. Quand je vois hier Mme Chitirou sur le plateau de BFM TV, qui parle, elle dit le jeune, on n'a rien à voir, le jeune. Alors, je ne veux pas dire le prénom Quentin. Tout ça, c'est inadmissible. Moi, je suis inquiet, j'ai 2 ans, j'ai travaillé 30 ans à Marseille, dans les quartiers nord. Maintenant, je me suis retiré. J'ai 2 enfants qui sont étudiants à Marseille. Les élections, M. Alizio, lui, il veut diriger qu'une partie de la ville. Comment il va pouvoir faire tout ça? Comment il va pouvoir réunir les Marseillais? Moi, je suis inquiet. Et à part la suite, il y aura les élections présidentielles. Donc, il va falloir que tout le monde se mette autour de la table.
Comment on fait pour vivre ensemble, vous voulez dire, justement? Comment on fait pour vivre ensemble? Pour se réconcilier?
C'est inadmissible.
Dans ce climat de violence. Vous avez peur? Vous avez peur au quotidien, y compris pour vos enfants?
Ben oui, là, j'ai eu mon fils, il est à Marseille. J'ai dit, cette semaine, tu sors pas pendant les élections et compagnie. Tu restes à la cité universitaire, tu révises. Et tu sortiras à partir une fois que les élections seront passées.
Cette crainte, c'est très fort de l'entendre dans votre voix, Karim, un père de famille, Marseille. Vous dites, je me suis retiré en quelque sorte. Karim, je voudrais précisément que Jean-Yves Camus puisse réagir avec une question. Est-ce que vous craignez d'autres affrontements? On a entendu le président de la République qui a lancé un appel au calme. Était-ce nécessaire?
C'est absolument nécessaire, mais les appels au calme, c'est bien, mais ce qu'il faut avant tout pour faire redescendre la tension, c'est que les coupables de ce qui s'est passé à Lyon soient identifiés et déférés. Ça fera déjà descendre la tension parce qu'on arrêtera d'être dans les supputations permanentes qui circulent sur les réseaux sociaux, on arrêtera d'être dans l'invective qui est fondée sur des suppositions, sur des supputations, mais qui n'est pas étayée par des faits. Et quand on a des faits...
Est-ce que vous craignez qu'il y ait des représailles d'un groupe contre l'autre, d'ailleurs?
Écoutez, ça n'est dans l'intérêt de personne, même s'il y a des choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, les services de renseignement suivent les deux mouvances comme le lait sur le feu et sont totalement susceptibles de détecter celles et ceux qui voudraient faire le pas de trop vers une généralisation de la violence.
Merci beaucoup. Merci Jean-Yves Camus. Vous êtes politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités. Et il y aura cette conférence de presse, vous en parliez, du procureur de Lyon à 15h cet après-midi. Notez également qu'à 7h50, dans une petite demi-heure maintenant, la voix de droite, parce qu'on est lundi, ce sera Charles Consigny. Et précisément, il veut ce matin dénoncer cette, je cite, cette extrême gauche violente et archaïque. Rendez-vous donc à 7h50. Merci aussi à Karim pour son témoignage et sa réaction. Il est 7h21. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, le sud-ouest touché par de très fortes précipitations, la Garonne qui bat des records de crues.
Ah oui, le fleuve déborde dans plusieurs communes, mais alors attention, c'est pas la première fois. Il y a 150 ans, Toulouse était déjà les pieds dans l'eau, c'était la première grande inondation moderne.
Et vous allez nous le dire dans un instant, Arnaud Demange va venir aussi pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23, on va remonter le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Arthur, deux départements sont toujours en vigilance rouge ce matin, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Et dans ces deux départements, c'est le niveau de la Garonne qui inquiète le plus.
Oui, le fleuve a atteint des niveaux records ce week-end et la décrue va être très lente puisqu'il va encore pleuvoir dans les prochains jours. Par exemple, à Cadillac-sur-Garonne, en Gironde, le niveau de l'eau n'a jamais été aussi haut depuis le début du XXIe siècle.
Quand la Garonne sort de son lit, c'est toujours dévastateur.
Et oui, et c'est un phénomène très ancien. C'est connu depuis le XIIe siècle. À l'époque, le chef de la région, c'était le duc d'Aquitaine. Et ce duc a pris des mesures contre les inondations, notamment en construisant les premières digues pour essayer de contenir la montée des eaux.
Ça n'a pas empêché l'une des plus grandes inondations de l'histoire.
Non, il y a un siècle et demi, la situation est devenue complètement incontrôlable. Et la première victime, c'était la ville de Toulouse. Toulouse qui est traversée par la Garonne. Dans la nuit du 23 au 24 juin 1875, après des semaines de pluie torrentielle, les Toulousains se réveillent dans une ville totalement inondée, les pieds dans l'eau. En moins de 24 heures, le fleuve grimpe de 8 mètres et fait plus de 10 fois son niveau habituel.
Avec de très lourds dégâts matériels et humains.
À commencer par les ponts, presque tous les ponts de la ville sont recouverts par l'eau, emportés et détruits par le courant. Une vision d'apocalypse, l'eau s'infiltre partout, détruit tout sur son passage. Les habitants sont même obligés de se réfugier sur le toit de leur habitation pour échapper à la montée des eaux. Beaucoup mourront ensevelis sous les ruines. Un bilan cataclysmique, près de 1400 maisons détruites et plus de 200 morts.
Les autorités ont réagi?
Alors on était moins préparés qu'aujourd'hui, donc on va dire qu'on a fait ce qu'on a pu. L'armée est intervenue pour évacuer les blessés. Le président de la République, en personne, s'est déplacé. Et à l'époque, le président s'appelait Patrice de Mac-Mahon. Et pendant que le préfet lui montrait les dégâts de l'inondation, eh bien le président ne savait pas trop quoi dire. Et finalement, pour réconforter les Toulousains, il a fini par lâcher une phrase un peu ridicule. Cette phrase-là, voilà, il a dit « Oh là là, que d'eau, que d'eau !» Et le préfet lui a répondu une chose encore plus ridicule. Et encore, vous n'avez vu que le dessus.
C'est inouï, cette phrase qui est effectivement restée dans l'histoire. Ces inondations, elles ont aussi été une vraie prise de conscience.
Oui, déjà au niveau national, les Français se sont mobilisés. Ils ont envoyé de l'argent, du linge à la mairie de Toulouse. Des journaux ont organisé des souscriptions, les artistes aussi s'y sont mis. À Paris, on a monté des spectacles dont la recette était destinée aux sinistrés. Et d'un point de vue écologique, c'est un vrai tournant en France, un traumatisme, puisque c'est la première inondation moderne à faire autant de dégâts à Toulouse. On a notamment imposé de nouvelles normes de construction et on a intégralement repensé la ville pour faire face à de possibles désastres.
Merci Arthur. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Notez qu'à 7h40, dans 20 minutes maintenant, l'hydrologue Emma Aziza sera dans ce studio pour essayer de comprendre cette France sous l'eau et aussi à quoi s'attendre dans les jours qui viennent. Et puis à tout moment, vous pouvez réécouter Arthur Chevalier. C'est sur le site rmc.fr ou sur l'application. Arnaud Demange nous rejoint à 7h26.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Bonjour.
Dans le
bonjour.
Face-à-face tout à l'heure, je reçois la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon.
Et on a tellement de questions à poser à la porte-parole du gouvernement, le cornu. La première étant... Alerte enlèvement. Sébastien Lecornu a disparu.
Oui.
Depuis qu'il a fait passer son budget, on le voit plus nulle part. Comme le charisme de Retailleau, Sébastien Lecornu est aux abonnés absents. Est-ce qu'il est encore Premier ministre? La dernière fois qu'il a été aperçu, il était au marché, avec un pull de la Halle aux vêtements, des sourcils non épilés et un cabas rempli de poireaux. Ses dernières paroles ont été « Bon, j'ai fini le budget. Maintenant, je vais me faire une bonne soupe de légumes. Allez, la folie !»
faut kiffer un peu dans la life. Wouhou! Déglingo!
Le gouvernement devrait être remanié cette semaine avec le départ d'Amélie de Montchalin et celui de Rachida Dati. Non, je reste à la culture et je t'emmerde! En tout cas, avec le départ d'Amélie de Montchalin. Et selon la presse, indiscrétion, Michel Fournier garderait son poste à la ruralité. Jack Lang va faire la gueule. Hein.
C'est dégueulasse. C'est honteux. On me vire de l'Institut du monde arabe alors que je n'ai rien fait. Et Michel Fourniret, lui, il reste au gouvernement.
De toute façon, Maud Bréjon me disait dans les couloirs, de toute façon, c'est que des tocards dans ce gouvernement. Mais ce serait que moi, je te virerais tous ces nuls. C'est bon, les panifous, les Fourniers, les Montchalin, que de la merde. Là, l'enfer devant leur gueule toutes les semaines. Il n'y a que moi qui tiens debout dans cette équipe d'abrutis. Ça reste entre nous, Apolline. Hein.
Tout à fait,
c'est
tout
du
tout
off. C'est
bien
du
sûr,
off.
Bien sûr, bien sûr. Vous faites du off maintenant.
Je fais que du off. Maud Bréjon viendra également porte-paroler au sujet des derniers propos d'Emmanuel Macron. Pour lui, la France insoumise est d'extrême gauche. LFI proteste. Et bon, ils se sont un peu mis dans la merde tout seuls. LFI, ils ont dit que Fabien Roussel, c'était Doriot. C'est-à-dire que le patron du Parti communiste, c'est un collaborateur néo-nazi. Sur la carte, ça te situe quand même assez loin vers la gauche, quoi. Parce que chez eux, quand tu émets l'hypothèse que peut-être il y aurait deux, trois patrons qui mériteraient pas d'être pendus avec les tripes de leurs enfants. Si tu dis ça, t'es un facho. Ça va vite, quoi. Et de l'autre côté, c'est pareil. Si tu oses émettre l'idée qu'il existe peut-être des musulmans qui ne rentrent pas tous les soirs chez eux tabasser leurs trois femmes à la batte de baseball parce qu'elles ont écouté du Céline Dion, tout de suite, t'es un islamo-gauchiste si tu dis ça sur CNews. C'est compliqué, la vie politique, hein, de situ. Et puis, vous parlerez enfin de la mort du jeune militant nationaliste Quentin à Lyon suite à une bagarre avec des militants antifascistes. C'est très compliqué, cette histoire. En plus, la version des événements change assez vite. Les insoumis se défendent d'être mêlés à l'affaire. Manuel Bompard a tweeté « LFI ne porte aucune responsabilité ». Raphaël Arnaud a dit que toute la lumière soit faite sur ce drame. Sébastien Delegu a dit « Je crois que les insoumis n'ont pas tapé, alors il faut que vous faisiez attention à ce que vous accusez notre parti qu'on n'a rien fait ». Voilà, et on essaiera d'y voir plus clair tout à l'heure avec Maud Bréjon à 8h30.
Arnaud Demange qu'on retrouve à 8h20. Il est 7h29, à tout de suite pour la météo de journal. 7h30, la France sous l'eau.
Oui, avec toujours 23 départements en vigilance orange pour crue, mais aussi pour pluie, inondation, pour avalanche dans les Pyrénées et sur le nord des Alpes. Et toujours deux départements en rouge crue, Gironde et Lot-et-Garonne, avec d'autant plus de nouvelles pluies aujourd'hui qui vont tomber sur cet axe sud-ouest, massif central, nord des Alpes. Beaucoup de neige à partir de 1500-2000 mètres en montagne. Et donc ce fort risque d'avalanche partout ailleurs. Un peu plus calme, en tout cas plus d'éclaircies, mais aussi un risque d'averse, parfois accompagné d'orages avec du vent. Les températures net redoux par rapport à hier, avec 7 à 12 degrés sur la moitié nord et 12 à 17 sur la moitié sud.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
7h31.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. De nouvelles images de l'agression de Quentin. Les témoins appuient la thèse d'une implication de l'ultra-gauche dans la mort du militant nationaliste à Lyon. Les familles de patients veulent que les choses s'accélèrent enfin. La loi fin de vie et son aide à mourir reviennent à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et après l'entraîneur, c'est le directeur du football de l'Olympique de Marseille qui démissionne. Mehdi Benassia a claqué la porte hier.
Mais d'abord ce constat, les enfants reçoivent leur premier smartphone de plus en plus tôt.
Entre 8 et 10 ans pour plus de la moitié d'entre eux, c'est un chiffre issu du rapport publié ce matin par la Fondation de l'Enfance. Malgré leur âge, un quart en profite pour alterner entre réseaux sociaux et jeux en ligne, Louise Salé.
Après l'école, Yasten, 10 ans, joue avec ses copains, mais en ligne sur le réseau social Roblox.
Des fois, je regarde YouTube et des fois, je joue à Roblox. Une heure, pas plus.
Et comme presque trois quarts des parents interrogés, Lorelai confie avoir un peu de répit quand son fils a un portable en main.
Ça permet d'être tranquille, mais aussi sur son téléphone, je peux mettre une appli qui me montre exactement quand il sort de la maison, quand il arrive à l'école, où il est sur la carte.
La moitié des parents se servent du smartphone pour géolocaliser leur enfant et ils sont 7 sur 10 à avoir installer un contrôle parental, ce qui n'empêche pas les écrans de s'immiscer dans de nombreux moments clés de la journée pour tous les enfants de moins de 15 ans. Joël Sikamois dirige la Fondation pour l'enfance.
Au petit déjeuner, par exemple, c'est encore 20% des enfants qui sont sur leur téléphone. Au moment du coucher, qui est quand même, on le sait, un moment à sanctuariser, notamment pour le sommeil, c'est 30% des enfants qui sont sur leur écran. Et ça va finalement réduire la capacité de l'enfant à apprendre et à se concentrer.
Paradoxalement, les jeunes approuvent en grande majorité le contrôle parental, ils sont même un tiers à vouloir davantage de temps sans écran à la maison.
Louis Salé pour RMC. Vigilance rouge crue maintenue ce matin dans le Lot-et-Garonne et la Gironde. 14 autres départements sont en orange. Notez aussi que 8 départements sont en alerte orange avalanche dans les Pyrénées et les Alpes du Nord. De l'autre côté de la frontière à Courmayeur en Italie, 2 skieurs ont perdu la vie dans une coulée hier, probablement des Français, disent les autorités. Dans l'affaire Quentin, le gouvernement accuse l'ultra-gauche. Elle était manifestement à la manœuvre lors du lynchage jeudi du militant nationaliste à Lyon. Ce sont les mots hier du ministre de l'Intérieur. De nouvelles images dévoilées par nos confrères de BFM TV semblent aussi abonder en ce sens, Ameline Lafchin.
Sur des vidéos filmées par des témoins, on distingue un homme, Quentin, gisant au pied d'un lampadaire après avoir été roué de coups. Maxime, habitant du quartier, a assisté à l'agression depuis son balcon.
J'ai vu tout un tas de mecs en noir. J'ai entendu crier « nazis, fachos, c'est des nazis, c'est des fachos, antifa ». Et après, en fait, j'ai vu Quentin, je pense que c'est Quentin qui s'était tabassé juste là. À 15 contre 1, c'était violent.
Une scène de violence dont a aussi été témoin cet autre habitant, alerté par les cris.
Coup de pied dans la tête, coup de poing. Après, ouais, coup de pied dans la tête quand je l'étais au sol. Ils voulaient l'éteindre, clairement. Ça allait vite, hein. Une fois, dès qu'ils ont vu qu'il était inconscient, ils sont tous partis en courant. Ouais. Lui, il s'est relevé de lui-même. Il perdait du sang du visage. Il repart en marchant, en titubant. Je dirais son décal, là, comme ça.
2 kilomètres plus loin, Quentin est pris en charge par les secours, souffrant d'une hémorragie cérébrale, avant de mourir samedi soir à l'hôpital.
Et de son côté, la Jeune Garde, ce groupe antifasciste dissous en juin, assure n'avoir aucune responsabilité dans ce drame. Le parquet de Lyon tiendra une conférence de presse à 15h. Il dit avoir reçu des témoignages significatifs. Laurent Nunez, attendu en Algérie aujourd'hui, un voyage important pour renouer le dialogue, dit le ministre de l'Intérieur. Le programme de ce déplacement en détail dans le journal de 8h. Après son rejet par le Sénat le mois dernier, la loi fin de vie revient à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, elle comprend la création d'un dispositif d'aide à mourir, ballotté depuis 2022 entre refus d'une large partie de la droite et report des débats à cause de l'instabilité politique. Alors Caroline Renaud, les familles de patients en fin de vie et les associations commencent à trouver le temps long.
Rongé par un cancer incurable, au bout de ses forces après plus de 10 ans de traitement, Renaud se souvient encore des derniers mois de vie de sa femme.
Elle est sous oxygène, elle ne veut pas souffrir.
Faute de loi sur la fin de vie en France, elle prend rendez-vous en Belgique, là où l'euthanasie est autorisée.
La dernière parole qu'elle fait au docteur, elle lui dit « vous me sauvez la vie ».
Alors pour les patients qui souffrent encore, Renaud demande aux députés de ne plus trop tarder.
Il faut penser aux malades, parce que ces gens ont le droit de partir, ça leur appartient.
Et même si le texte prévoit un encadrement très strict de l'aide à mourir.
Il faut légiférer, même s'il est imparfait, il faut bien commencer par un bout, quoi.
Même impatience du côté de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, Jonathan Denis, son président.
Moi, je n'en peux plus de devoir être dans un pays qui abandonne certains de ses concitoyens sur le bord du trottoir. Ce temps long des débats, c'est du temps que certains malades n'ont plus. Des malades qui demandent qu'on évolue enfin sur la loi et qui le demandent depuis 40 ans.
Il craint de nouveaux amendements par centaines à l'Assemblée nationale. Il n'est plus temps de débattre, mais de faire, dit-il aux députés.
Caroline Renaud pour RMC. Il est 7h37 sur RMC. Le foot et ce nouveau coup de tonnerre à l'Olympique de Marseille, moins d'une semaine après le départ de l'entraîneur Roberto De Zerbi, autour du directeur du football, Mehdi Benatia, d'annoncer sa démission en pleine crise de résultats, Valentin Jamin.
Oui, ce départ assombrit un peu plus l'avenir à court terme de l'OM, car c'est Mehdi Benatia, même s'il a demandé à partir il y a une semaine, qui a initié les recherches du futur entraîneur pour Marseille ces derniers jours en tant que directeur du football et proposé notamment le nom d'Habib Bey. Ce dossier doit maintenant être géré par Pablo Longoria, le président en première ligne. Entre lui et Benatia, le courant ne passait plus vraiment. Le trio qu'il formait avec l'entraîneur Roberto De Zerbi a explosé en une semaine. L'avenir de Longoria est flou, sa réaction attendue. Il est contesté par les supporters qui l'ont visé sur des banderoles, tout comme le propriétaire Franck McCourt. Ce dernier a essayé de raisonner Mehdi Benatia et il va devoir se positionner, s'exprimer, puisque son club est sur un fil avant de se rendre à Brest dès vendredi.
Et ce résultat en Ligue 1 hier, la 13e victoire consécutive de Lyon, 2-0 contre Nice pour conforter la 3e place des Lyonnais. Et puis la France peut dépasser aujourd'hui son record de médailles aux JO d'hiver. Elle l'a égalé hier en portant son total à 15 et on a de bonnes chances, notamment sur le slalom homme dès 10h.
Et puis les courses, le quintet c'est à Vincennes aujourd'hui.
Départ 13h55, la Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le 13 Competitivo, et son outsider, le 15 Sandokan. Le 13 et le 15.
C'était le journal de Victor Pourchet. Il est 7h38 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Des communes coupées du monde en Gironde et dans le Lot-et-Garonne, des habitants évacués jusqu'à 10 mètres de hauteur d'eau. Le sud-ouest et l'ouest de la France sont face à une crue généralisée. Bonjour Emma Aziza, vous êtes hydrologue. Le pic et le pire pourraient encore être à venir. Il faut s'attendre encore cette semaine à beaucoup de pluie et de vent. C'est ce que vous nous dites aussi dans un instant. Et vous qui nous écoutez, appelez-nous au 3216. Dites-nous si vous êtes sinistré ou inquiet de la montée des eaux. Je vous attends pour témoigner. Il est 7h30.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. La France, sous l'eau, l'ouest fait face à une crue généralisée. Certaines communes en Gironde et dans le Lot et Garonne sont accessibles uniquement par barque. Des habitants ont été évacués encore jusqu'à tard hier soir et jusqu'à 10 mètres de hauteur d'eau. Bonjour Emma Aziza.
Bonjour.
Vous êtes hydrologue, vous êtes présidente du Mayan Resilience Center pour essayer justement de comprendre comment on fait face à cela. D'abord, le pic de crue, au moment où l'on se parle, il n'est toujours pas atteint.
Alors, en fait, il est atteint, mais il est en train de se déplacer tout au long du bassin. C'est-à-dire, faut imaginer une sorte de vague qui fait 10 mètres de hauteur et qui est actuellement en train de venir se propager. Donc, c'est une onde de crue qui atteint effectivement entre 10 mètres et entre 9,5 et 10 mètres de hauteur, suivant les cours d'eau, qui est en amont actuellement de Bordeaux et donc qui est en train d'arriver vers Laval. Sauf que de nouvelles pluies arrivant en amont, eh bien, ça va générer une seconde vague potentielle, et donc c'est cela qu'on craint principalement.
Est-ce que ça veut dire aussi qu'il ne faut pas attendre de retour à la normale avant plusieurs jours ?
Alors nécessairement, on est sur des crues de grands bassins. Il faut imaginer que la Garonne, c'est quand même une superficie importante. Donc oui, il va y avoir du mal à évacuer cette eau. On n'est pas sur un cas d'épisode méditerranéen où l'eau monte très rapidement, très violemment, mais en quelques heures, il n'y a plus d'eau. Là, il faut attendre quelques jours pour que ça monte et quelques jours pour que ça redescende.
Il y a un terme qui a été utilisé, que je viens donc de moi-même utiliser, qui est ce terme de crue généralisée. Pourquoi j'ai dit crue généralisée ? Parce que c'est Vigicru qui parle de crue généralisée. Ça veut dire quoi ? Crue généralisée.
Alors généralisée, ça veut dire que ça atteint l'intégralité du bassin versant, c'est-à-dire que tous les petits cours d'eau, tous les affluents sont actuellement concernés par des crues, et donc c'est la concomitance de l'arrivée de ces ondes de crues qui peuvent potentiellement générer encore plus de dommages, et surtout, le vrai risque, c'est qu'on a mis un peu partout des sortes de digues, enfin des renforcements pour essayer de protéger la population, qui en général se sent complètement, justement hors d'atteinte derrière ces digues, et c'est la rupture de digues qui risque de générer des problèmes et qui d'ailleurs le fait déjà.
Avec effectivement d'autant plus de violence que l'eau aura d'abord été retenue par ces digues. La Garonne qui déborde autant, c'est semble-t-il inédit au XXIe siècle, mais Arthur Chevalier nous parlait tout à l'heure de la très grande crue de 1875, il y a eu des précédents.
Bien sûr, 1875-1930. D'ailleurs, on parlait en 1930 d'un potentiel réchauffement climatique à l'époque parce qu'on avait une succession de grandes inondations sur la France. Donc, en hydrologie, c'est déjà un terme qu'on utilisait. Et donc, à l'époque, ensuite, ça a été complètement revu. Quelle est la différence entre hier et aujourd'hui ? Hier, c'était extrêmement violent et extrêmement meurtrier. Pourquoi ? Parce que les habitants se prenaient la crue de plein fouet. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a des architectures électriques, on a des hôpitaux, on a aménagé derrière sur l'intégralité du bassin versant justement et artificialisé les sols en amont. Donc premièrement, on a une réaction qui est complètement différente à l'amont de ce bassin versant, qui fait que ça réagit beaucoup plus vite, beaucoup plus violemment, parce qu'on a modifié les sols. Et puis ensuite, derrière, vous avez beaucoup plus d'enjeux qui sont exposés. Mais ceci dit, la grande différence, c'est que on suit minute par minute l'évolution de la propagation de l'onde de crue. C'est-à-dire qu'on est capable d'évacuer les gens au bon endroit, au bon moment. Puis on est sur des crues qui sont quand même avec une dynamique moyenne. C'est-à-dire que, en général, ils engagent beaucoup moins de victimes. Par contre, on a toujours des vrais sujet derrière d'endommagement des habitats.
Des habitats et aussi évidemment des infrastructures. Gérald voulait témoigner avec nous du côté de Cauvignac en Gironde. Donc bonjour Gérald, vous êtes sur la route me semble-t-il. Est-ce que vous avez réussi à arriver jusqu'à Marmande ? Dites-nous ce qu'il y a autour de vous.
Alors pas encore. La première route que j'ai prise à partir d'un village s'appelle Cocumont en direction de Marmande.
Ouais.
Il y a plusieurs directions. Donc la direction de Meillan a été fermée. La direction de Sainte-Bazeille était fermée, la direction de Pont-des-Sables était fermée, donc impossible d'accéder à Marmande par ce côté-là, quoi. Alors, par contre, le nouveau pont de la Réole est ouvert.
Oui.
On peut traverser, mais de l'autre côté, par contre, on tombe sur un barrage. Quand on va aller du côté de Marmande, on tombe sur un barrage et la route est fermée.
Donc là, vous avez l'impression à chaque fois de vous heurter à, effectivement, c'est un labyrinthe, quoi.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Qu'est-ce que vous voyez autour de vous?
Alors là, je suis en pleine campagne, j'ai réussi à trouver une route, à me mettre un peu en hauteur, donc du coup, je ne vais pas rencontrer d'eau. Mais c'est vrai que quand tu passais un peu plus bas, là, c'est de l'eau à perte de vue, quoi. C'est impressionnant, quoi.
Vous aviez perdu le courant, Gérald?
Alors, nous, on n'est pas passé par la crue, parce qu'on est plutôt un peu loin de la Garonne, si vous voulez.
Ouais.
Par contre, on a été impacté par la tempête.
Mmh.
Donc, à Odessa, on n'avait pas d'électricité, pas d'internet, pas de réseau. On est resté depuis jeudi, même mercredi soir d'ailleurs, puisque la tempête c'était dans le mercredi à jeudi, si je ne me trompe pas.
Et vous avez retrouvé l'électricité quand ?
Hier soir.
Hier soir, donc il y a eu quand même de nombreux jours, effectivement, et vous avez raison de le dire aussi Gérald, c'est ça, il y a eu la tempête, la crue, donc des vigilances de tous les côtés. Gérald, restez avec nous, mais je voudrais justement qu'Emma Aziza puisse réagir à ce point-là, c'est-à-dire qu'au fond, jeudi, c'était la tempête et le vent, et de nombreux arbres qui sont tombés aussi, parce que précisément, ils étaient fragilisés déjà par la question de l'eau.
Et par le fait qu'il y ait eu déjà beaucoup de pluie en amont, si on regarde les pluies depuis le début février, eh bien on a des quantités absolument astronomiques qui se positionnent sur l'intégralité du bassin de la Dordogne ou de la Garonne. Et donc on voit très bien que ce sont des secteurs qui étaient déjà fragilisés lorsque cette tempête est arrivée. Donc déjà ça remobilise les sols, donc ça accélère le risque de chute d'arbres. Ça accélère notamment eh bien toutes ces éléments qui vont ensuite venir directement dans les cours d'eau, générer des risques d'embâcle, des risques de...
D'embâcle, c'est aussi effectivement quand l'eau charrie tous ces troncs d'arbres.
Exactement,
tous ces
c'est des sortes de barrages temporaires.
Exactement.
Et donc, en fait, c'est tous ces risques accumulés qui, à un moment donné, se confrontent au fait que le sol est totalement saturé en eau, l'eau arrive, elle n'a plus d'autre possibilité que de ruisseler en surface. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de cette crue généralisée, c'est que l'eau arrive de partout, de tous les sous-bassins, et donc se rejoint sur la Garonne. Mais quand on parlait de Marmande, le pic de crue est déjà passé, il est déjà un peu plus loin. Et donc
cette onde de crue dont vous nous parlez qui se déplace et qui est effectivement renforcée encore par le fait qu'il pleut. Un mot justement là-dessus sur les jours qui viennent. Anthony, ça ne s'arrête pas. Hein.
Ça ne s'arrête pas avant vendredi. Vendredi, on pourrait espérer un répit avec le retour des hautes pressions, mais d'ici là, on pourrait avoir entre 2 et 4 semaines de pluie supplémentaires sur ces régions du sud-ouest avec deux facteurs aggravants. La neige qui fond aujourd'hui en montagne, donc qui vient alimenter les cours d'eau. Et puis le retour des grandes marées. Entre jeudi et vendredi, ces grandes marées vont freiner l'écoulement des cours d'eau vers l'océan.
On a vraiment l'impression de se retrouver effectivement piégé. Emma Aziza, un mot quand même sur les prévisions, parce que tout cela, évidemment, peut quand même au moins avoir un bénéfice, c'est que les nappes phréatiques vont être remplies. Est-ce qu'on peut espérer que l'on ne parle pas l'été prochain de la sécheresse?
Alors bien sûr qu'on peut l'espérer. En tous les cas, c'est un territoire sur la Garonne qui a été soumis à des sécheresses historiques. Donc on voit très bien que ce sont les extrêmes qui s'accentuent. Et donc, bien entendu, que ça va faire du bien à l'ensemble des nappes. Par contre, il faut toujours être vigilant. Moi, j'ai en tête l'année 2018 où on avait des crues généralisées sur toute la France. Pendant des mois, on n'en a fait que parler de précipitations. Et il a suffi de 3 semaines de canicule pour que tout bascule. Donc, on est sur des bascules extrêmement rapides, extrêmement violentes, avec une atmosphère qui est nécessairement plus chaude, qui amène des quantités de pluie un peu supérieures. Le réchauffement climatique n'a pas inventé le risque inondation. Il existe depuis la nuit des temps. Par contre, il est en train de le modifier légèrement, que ce soit sur les questions de Fontenival, donc d'apport secondaire, ou que ce soit derrière sur la manière dont les pluies vont arriver sur le territoire, plus violentes, différentes. Et d'ailleurs, peut-être un mot, 50% des personnes qui ont été inondées ces 5 dernières années l'ont été en dehors de zones inondables. Ça signifie bien que c'est la signature des pluies qui est actuellement en train de se transformer. Donc c'est beaucoup moins spectaculaire
que ce qu'on imagine. La géographie. Merci Emma. Merci. Aziza, hydrologue et présidente de Mayan Resilience Center. Merci. Évidemment, le mot résilience d'autant plus important aujourd'hui. Il est 7h51. Charles Consigny est rentré dans ce studio La Voix de Droite. On est lundi. Bonjour Charles.
Bonjour.
Vous vouliez revenir sur la mort de Quentin, étudiant lyonnais de 23 ans, vraisemblablement tué par l'ultra-gauche.
Oui, je pense qu'on a une extrême gauche violente en France et que cela fait exception dans le monde parce que nous sommes complaisants.
Et vous nous le dites dans un instant, il est 7h51, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h52, dans un instant, Charles Consigny nous parlera de l'extrême gauche qui tue en France. Mais d'abord, le bonus Mathieu, une Française qui cartonne en Chine. Hélène.
Et avouez que vous êtes surpris d'entendre Hélène Rollès ce matin sur RMC. Mais figurez-vous qu'à 59 ans, si on l'a parfois un peu oublié chez nous, c'est vrai, Hélène Rollès est une superstar en Chine où sa carrière a continué après la série Hélène et les garçons. Eh bien, Hélène Rollès va se produire ce soir à la télé chinoise devant quelques 800 millions de téléspectateurs.
800 millions de téléspectateurs.
Avouez que ça fait rêver quelques chaînes de télé. Une soirée spéciale pour le Nouvel An chinois, suivie d'une tournée à l'automne. Hélène Rollès, qui par ailleurs chante aussi en chinois parfois. Vous entendez dans les yeux d'une fille écouter cette version à Shanghai, c'était il y a 10 ans. Et on apprend qu'en Chine, les chansons d'Hélène Rollès sont considérées comme des classiques de la chanson française et qu'elle jouit d'un statut d'ambassadrice de la culture française. Hélène, je m'appelle
Hélène. RMC, Apolline Matin. Voix de gauche. Voix de droite.
Et c'est lundi. Et comme chaque lundi, c'est la voix de droite sur RMC. Charles Consigny, avocat, grande gueule d'RMC. Bonjour Charles.
Bonjour.
Le monde politique a réagi évidemment fortement à la mort de Quentin. Quentin est mort, cet étudiant, donc nationaliste lyonnais, lynché à Lyon jeudi soir. L'ultra-gauche est pointée du doigt. Pour vous, la France a été trop complaisante avec ce que vous appelez une extrême-gauche violente.
Alors, je pense que le gauchisme est tel, de façon généralisée en France, dans les médias, dans le monde culturel, dans la magistrature, dans un certain nombre comme ça de strates de notre société, qu'effectivement on tolère, avec une certaine complaisance, une extrême gauche violente. Et je suis très choqué de voir que et de lire sur les réseaux sociaux, d'entendre sur certaines antennes que d'une part, il y a une forme de déni. Certains vont dire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir avec Rima Hassan, avec sa conférence. On ne sait pas qui sont les auteurs de ce crime, alors qu'on a des vidéos et on voit bien quels groupuscules sont à l'œuvre, premièrement. Et deuxièmement, des gens qui disent, oui, mais Némésis, groupe auquel appartenait Quentin, c'est insupportable, tu vois bien, ils sont odieux chez Némésis, etc. Donc c'est Quentin qui meurt, mais on a tout de suite des bobos endoctrinés, si vous voulez, qui ne supportent tellement pas d'avoir la moindre contradiction qu'ils en viennent à attaquer le groupe auquel appartenait la victime.
On excuse l'extrême-gauche pour vous en France ?
Oui, je pense qu'il y a une complaisance. D'ailleurs, il suffit de voir comment on les appelle. Ils s'auto-désignent par le terme d'antifascisme. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous ressortir cette citation de Churchill éculée, mais qui est quand même en l'espèce intéressante, qui dit que le fascisme reviendra s'il s'appelle antifascisme. Et donc, rien que leur laisser le bénéfice de cette dénomination me paraît être une forme de complaisance. Ce ne sont pas des antifascistes, ce sont des fascistes d'extrême-gauche. C'est le seul terme possible, et d'ailleurs, ils utilisent les méthodes du fascisme puisqu'ils procèdent à des ratonnades.
Vous pointez des médias, des intellectuels.
Oui, je pense que c'est assez large. Pour ne pas les citer, j'entendais par exemple hier chez nos confrères de France Info que le grand sujet, c'était non pas qui étaient les auteurs du crime, est-ce que par exemple le collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud était ou non dans la bande qui a tué Quentin. C'est quand même quelque chose d'extrêmement grave et intéressant si on a le collaborateur parlementaire d'un député en poste qui a participé à un meurtre. C'est pas anodin. Mais ce qui intéressait France Info hier, c'était pas ça. C'était qui était Quentin ? Est-ce que c'était un militant d'extrême droite ? Qu'est-ce que Némésis ? Est-ce qu'il s'était singularisé par un parcours d'extrême droite ? C'était ça le sujet.
Alors ici, on est sur RMC. Vous pointez la France, mais ailleurs en Europe, on a vu des groupes extrémistes violents.
Oui, en Italie par exemple, on sait, et puis historiquement on sait d'ailleurs où ça a mené. Par exemple, en Italie, ça a été les brigades rouges, des enlèvements, des crimes, du terrorisme. Donc ça devrait nous renseigner, si vous voulez, ça devrait être un exemple.
Vous avez vu les mots de Jean-Luc Mélenchon, il exprime sa sidération, son empathie, sa compassion après la mort de Quentin ?
encore heureux qu'il l'ait fait, si vous voulez, encore heureux qu'il le fasse. Moi, je mets pas en cause Jean-Luc Mélenchon ou toute la France insoumise, je dis pas que c'est eux. En revanche, je pense que Rima Hassan est quelqu'un de dangereux, par exemple. Je pense qu'elle est antisémite, quasiment proclamée, et je pense qu'elle génère une certaine violence. Et d'ailleurs, l'audience qu'elle a dans les universités françaises, c'est quelque chose qui devrait nous inquiéter.
Merci beaucoup Charles Consigny d'avoir été avec nous, la voix de droite ce matin. Demain matin, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Rendez-vous donc tous les jours à 7h50. Dans un instant, le journal de 8h, le Sud-Ouest donc qui est sous l'eau. Nous serons sur les bords de la Garonne en Gironde dès le début du journal en direct. La météo, encore une journée agitée justement. Les intempéries, justement, elles ont été chiffrées par Emmanuel Le Chypre qui nous dit dans un instant combien tout cela va nous coûter. Il est 7h58, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.